I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
It's on a sinking, the cattle go devils go down. It's redding, those wings are long.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast fabriqué non pas avec des data, mais avec de vrais gens. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Sur les mezzanines du poste général donc, Olivier Vigneault, président de l'agence pleine de data BETC Full Six.
Bonjour Vincent.
Félix Barrès, roi en colère des data journalistiques.
Bonjour. Ben non, aujourd'hui je suis pas en colère. Je suis content de revoir Olivier.
Et nos deux invités, oui, non pas un, mais deux, Kirel Benzi, data artist, et Kylan Vutong, head of innovation, j'adore ces trucs anglais. Tout ça chez Equino, groupe de conseillers de réalisation digitale, membre de BETC Full Six. Tiens, tiens, le hasard sans doute. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Le sujet du jour étant...
Le data art.
L'expression de data art est généralement utilisée pour désigner une forme extrême d'application des techniques de data vision qui consiste à donner une grande dimension esthétique à la représentation des données.
Merci. Mais tout d'abord, on envoie une petite pub.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce au data art. Des créations originales qui rendent visible l'invisible de vos données.
Ça veut dire qu'on est filmé ?
On nous voit tout nus ?
Oui, toi tu as l'habitude.
Le data art ne s'inspire pas de vos physiques, mais des 2,5 quintillions de bits de données générées chaque jour afin de les représenter sous forme d'œuvres d'art.
Bah, c'est juste une image avec des fleurs.
Oui, sauf que c'est la consommation de merguez en France sur un an, croisée avec les échanges hommes-femmes de plus de 60 ans et la vitesse de reproduction des cochons d'Inde.
Ah.
Le data art s'inspire également de vos connexions et interconnexions, vos choix de recherche ou de consommation, vos préférences et aussi vos déplacements, vos activités et leur impact sur l'environnement.
Regarde ça, c'est marrant. Dubaï mélangé avec des déchets plastiques.
Et là, de jolis fractales sur la montée du niveau des océans.
Alors, curieux de voir quelle œuvre de data art pourrait naître de vos données personnelles ou professionnelles? Voulez-vous en savoir plus?
Alors, Olivier, ce que nous venons d'entendre est-il crédible?
Ah bah c'est au-delà de crédible, c'est vraiment, c'est le futur qui se décrit en quelques mots. Moi j'ai hâte de savoir comment on peut croiser la reproduction des cochons d'Inde avec la consommation de merguez sous forme de fleurs. C'est vrai que quand même on a très envie de voir ça. Mais blague à part, on est dans un monde où le volume total de données stockées sur la planète atteindra quand même, tenez-vous bien, 175 zeta-octets en 2025. Et qu'est-ce que c'est que 175 zeta-octets? C'est 175 milliards de teraoctets. Donc bref, nous sommes ensevelis sous la donnée et ça pose une question qui est comment est-ce qu'on rend intelligible cette donnée pour les gens? Parce que voilà, la donnée, elle n'a de sens que si on comprend ce qu'elle a à nous dire. Et que évidemment enseveli sous des octets, on comprend rien. Et donc se pose la question de sa représentation dans notre vie. Et la représentation, elle peut être tout simplement de la data visualisation, c'est-à-dire le truc classique. Voilà, je fais des courbes, je fais des histogrammes, je fais des choses qui la rendent un peu plus facile à digérer. Mais il y a des gens qui se penchent maintenant sur une façon de la représenter qui soit plus intéressante encore, plus émotionnelle, pour toucher les sentiments des gens. Donc oui, 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 Vincent, cette histoire de représentation, par exemple, avec des fleurs, pour exprimer quelque chose, est vraiment un sujet qui va se développer.
Kirel Benzi, vous êtes data artiste. Est-ce que la pub qu'on a entendue, du coup, pour vous, elle est crédible? Est-ce que c'est déjà ce que vous faites? Est-ce que ça correspond à votre travail? Et quel est-il exactement ce travail de data artiste?
Alors oui, la pub, elle est un petit peu humoristique quand même, hein, mais on fait pas que des trucs avec des cochons d'Inde et des merguez, mais on va dire que dans l'essence, c'est assez juste en fait. L'idée, c'est vraiment de transformer des données en une représentation qui vise à donner de l'émotion. Donc, généralement, l'art, ça sert aussi à transmettre un message et de l'émotion. Mais évidemment, comme là, c'est basé sur des vraies données, ça a aussi un sens qui est un peu plus profond, qui est plus objectif que juste une vue subjective d'un artiste qui fait son tableau, son œuvre, etc. Donc on essaie de mélanger vraiment d'un côté l'émotion et de l'autre côté la raison.
Donc il y a la data visualisation et au-delà, il y a le data art.
C'est une extension, on peut appeler ça aussi data visualisation artistique. On peut trouver ça aussi, après il y a différents niveaux de artistique, est-ce que c'est un peu beaucoup, on peut aller loin. Mais c'est ça, et l'idée pourquoi on parle de data vis, parce qu'en c'est assez biologique en fait. 50% de la surface du cerveau est dédiée à la vision. Donc c'est dommage de se priver de finalement transformer des chiffres en ou n'importe quoi en fait, en images, puisque du coup on n'utiliserait pas cette capacité qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de schémas, c'est pour ça qu'on a beaucoup de représentations visuelles, c'est pour ça qu'on a des pubs où il y a aussi du visuel, on veut transmettre un message et le data art du coup s'inscrit aussi dans cette mouvance-là.
Mais qu'est-ce qu'il apporte de plus, le data art? Qu'est-ce que pour vous, il apporte de plus? Qu'est-ce qu'il signifie par rapport à la data visualisation?
Alors, il y a une différence fondamentale, c'est que dans la data vis, l'objectif, c'est d'être le plus efficace pour communiquer de l'information. Donc là, c'est assez clair. Il n'y a pas forcément les fioritures peuvent être ajoutées, mais il ne faut pas que ça empêche de vraiment comprendre ce qu'on veut dire dans les données, précisément. Le data art, c'est pas exactement ça l'objectif. L'objectif, c'est d'abord l'émotion, parce que on cherche le message. Quand on a des dashboards toute la journée, le message il est assez limité. Donc on essaie très factuel, on essaie de mesurer des infos, des points, etc. Dans le data art, on essaie vraiment de transmettre une émotion, un message, et du coup on n'a pas forcément besoin d'aller dans chaque détail de chaque point. Là, l'idée c'est de dire ah oui, quand je vois ce tableau, quand je lis sa description, quand on me l'explique, ça y est, j'ai compris de quoi ça parle, ça me touche. Plus que j'ai fait un dashboard avec trois courbes et un histogramme qui va toucher personne, puisque c'est pas le but.
Moi, je trouve que les histogrammes, déjà, des fois, ça touche hein, quand même.
Ah bon, alors,
surtout les camemberts.
Oui,
mais alors, Kirel, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Kylan Vutong, qui est Head of Innovation, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire qu'à cette partie artistique, il y a quelque chose qui s'y...
Il y a la partie business qui s'y ajoute.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec le data art et vous?
Ben, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde, dans un écosystème business, économique, qui est de plus en plus complexe. Ça, c'est pas une nouveauté, hein, ça arrive de plus en plus. Et il faut que les décideurs puissent avoir la bonne base pour prendre la bonne décision. Donc, pourquoi? Ça n'explique toujours pas pourquoi le data art.
Non, clairement.
Mais le data art, en fait, ça fait partie de nos recherches pour transmettre de l'information par l'émotion. Donc on peut transmettre de l'information pour les décideurs, c'est-à-dire que, par exemple, on peut se retrouver avec toute une supply chain sur la blockchain.
Pardon, mais du coup, supply chain sur la blockchain, ça veut dire quoi?
Alors supply chain, donc toute la partie qui va industrielle de création d'un produit, transport, etc. Et on peut la positionner sur donc une blockchain qui va permettre en fait à chacun des acteurs de la supply chain de venir enregistrer son étape et de ne pas pouvoir ensuite revenir dessus comme ça. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très solide là-dessus. Donc c'est un cas assez intéressant d'application. Mais le problème, c'est que la blockchain, elle est complètement invisible. Donc si on se retrouve avec simplement des rapports qui arrivent d'en bas, ça met du temps à être fait, les informations mettent du temps à être remontées, on peut mettre en place une œuvre de data art basée sur ces données en temps réel, donc qui va évoluer au fur et à mesure, et qui va, parce qu'on l'aura travaillé pour ça, cette œuvre va pouvoir donner l'information aux décideurs qui la voient. Donc ça peut être, par exemple, il y a un problème, un tunnel, un entonnoir au bout d'un moment dans la supply chain, on va pouvoir peut-être se retrouver avec des lignes beaucoup plus resserrées, qui virent au rouge, il y a un problème, il se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose.
Mais ça ressemble à une customisation, ou comme on appelle un skin sur du data vision.
Oui, surtout, on en a parlé, là, à quel moment on a moins besoin d'efficacité dans la visualisation et où on a besoin de l'art et de l'émotion. Pourquoi on a besoin de l'émotion, en fait, dans cette visualisation?
Alors, parce que...
C'est Kirel qui parle.
J'aimerais beaucoup qu'en fait, tous les humains prennent des décisions que sur la raison, mais en fait, dans la réalité, l'immense majorité des décisions, elles sont faites sur l'émotion. C'est toujours... J'ai une intuition, c'est mon gut feeling, je fais quelque chose. Et du coup, en fait, on ne peut pas s'extraire de ça, malgré le fait qu'on ait plein d'outils. Au final, la décision... Déjà, les outils sont, la plupart du temps... sur le passé, c'est-à-dire que ça, on peut essayer de faire des prédictions sur le futur, mais le futur, il dépend de ce qu'on fait. Donc, il y a un moment où on a la jugeote, de dire « Ah, je sens qu'il va se passer quelque chose ». Donc le fait de pouvoir jouer sur l'émotion, ça aide à la décision par rapport à ce point-là. Et du coup, c'est une des informations que nous, on essaie de transmettre.
Oui, mais là, Kirel, pardon, cette émotion artistique que vous allez donner à l'œuvre, c'est vous qui l'a décidé. Elle vient pas des datas.
Alors, tout à fait. Ça, c'est une bonne, c'est une très très bonne réponse. Mais elle vient pas des datas. Mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise quand même un process qui est lié au design. C'est-à-dire que on fait des itérations, on va avec la personne, on essaie de voir est-ce que ça la touche ou pas. Et on a même d'ailleurs, dans le cadre de nos recherches à l'atelier, fait une étude où on mesure sur les gens en fait la perception qu'ils ont des œuvres de Datar, par exemple, et de voir si ça apporte quelque chose de plus par rapport à juste une datavise ou le fait que, par exemple, est-ce qu'il y a une description qui, le fait que je lise une description d'une œuvre de Datar, est-ce que ça change ma perception visuelle ? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, si j'arrive à comprendre en fait les données qui sont derrière cette représentation abstraite visuelle, est-ce que maintenant j'ai changé mon impression que j'avais initiale parce que maintenant les couleurs, je comprends que ce rouge-là en fait, il veut dire que c'était des points sur des cochons d'Inde, alors que moi je pensais qu'un cochon d'Inde c'était vert dans ma tête et que du coup j'aime moins le tableau parce que finalement les cochons d'Inde pour moi c'était comme ça.
Je comprends parfaitement cette étape-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de manipulation pédagogique. C'est pas une réalité née des datas. C'est vous décidez grosso modo de l'orientation et de la pédagogie nécessaire par rapport aux gens.
Oui, je suis absolument d'accord, mais il faut bien se rendre compte que de toute façon, la data visualisation et les dashboards sont aussi biaisés. Évidemment, on va mettre en avant même une simple courbe. En fait, on va pouvoir la présenter de la bonne manière. On peut se retrouver, on a tous vu ce type de choses, on veut donner l'impression que notre boîte est en train de faire beaucoup de profit. On prend les trois dernières semaines où on a eu à peu près des bonnes choses.
Comment vous savez ça?
J'ai l'impression que ça a fuité.
Et alors si on regarde sur les trois derniers mois, finalement c'est une catastrophe. Donc on peut manipuler les données de toute façon. Donc ça en fait, ce biais, nous on l'utilise vraiment à l'avantage des décideurs. Donc évidemment ce message, on va le travailler pour que ce soit l'information la plus forte qu'il ait.
J'ai l'impression, pardon, qu'il y a deux cas de figure, parce qu'il y a le cas de figure de « je teste ce qui va faire réagir les gens de telle ou telle manière pour ensuite que ce soit utile de leur montrer telle ou telle émotion en fonction des décisions qu'ils ont à prendre ». Et puis qu'il y a aussi un autre champ qui est le pur art, qui consiste à imaginer des choses abstraites, ou des fleurs, ou que sais-je encore, c'est pas très abstrait les fleurs, et là il n'y a pas de test sur les réactions que ça génère, mais simplement un projet artistique, non, il y a quand même les deux.
Ouais, exactement, c'est cette dualité, mais comme disait Kylan, n'importe quelle data vise, ou même juste d'être, quand on fait de la data science, il y a toujours un biais. On n'a jamais un dataset qui est donc un jeu de données qui est parfaitement complet. On a toujours un biais humain derrière ça. C'est pour ça que, il y a beaucoup de on peut pas en fait s'échapper de ce, on est des humains et on traite les données, on peut pas être objectif en fait.
Alors là, Kirel, vous prêchez un converti, ça fait depuis le début qu'on fait cette émission qu'on dit ça, derrière tous les programmes, derrière toutes les intelligences artificielles, il y a des humains, ce qui fait qu'en fait, là où on se dit que ça va être quelque sorte impartial, objectif, etc., en fait, ça ne l'est jamais. Ça l'a jamais été aussi peu d'ailleurs que depuis que peu de gens prennent des décisions, puisqu'il y a peu de gens qui programment, il y a peu de gens qui font des choses, donc finalement on est quand même soumis à ça. Félix.
Oui, pour prendre un exemple, pour bien comprendre que la visualisation est de toute façon biaisée, il n'y a qu'à prendre les cartes. On connaît tous cet exemple de la carte du monde du planisphère qu'on a dans toutes les écoles. L'Europe est au centre. On est sur une vision européo-centrée du monde, et en Amérique, l'Amérique est au centre de la carte, et ça veut déjà dire quelque chose sur notre vision du monde. Et ça, en fait, ça existe effectivement depuis toujours. Les données, la manière dont on les représente, sont soit manipulées sciemment, soit au moins disent comment on voit le monde. De toute façon.
Alors là, j'aimerais qu'on sorte de cette idée de manipulation qui n'était pas là pour dire que tout est biaisé, etc., même si c'est marrant, mais plutôt pour essayer de déceler la petite différence qu'il y a entre data art et data visualisation.
Oui, il y a des degrés de toute façon.
Je voudrais comprendre où ça se situe exactement.
Alors, c'est assez difficile à expliquer sans le voir, parce que c'est assez flagrant quand on voit déjà rien que le visuel, parce que la data vise, pour la plupart des gens, ça va être en fait une collection d'objets visuels qui sont normés. Un bar chart, donc un diagramme en barre, je crois en français, des lignes, etc. Ça, on connaît. C'est très normé. Il y a 50 000 logiciels qui permettent de faire ça. La data art, du coup, il y a un côté qui est vraiment créatif qui sort. C'est-à-dire que le résultat, on s'y attend pas. Il y a vraiment un travail qui a été fait de la même manière qu'un artiste ou un designer. On va aller chercher pour créer quelque chose qui n'existe pas visuellement ou qui vraiment est différent de ce qui existe. Et alors, évidemment, ça a un coût, c'est-à-dire que pour l'entreprise, des fois on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir un data art par rapport à juste mes logiciels que je peux télécharger et du coup utiliser de manière standard ? Qu'est-ce que ça apporte ? Et du coup, c'est là où ce qu'on propose, voilà, la différence, c'est qu'effectivement, quand on crée quelque chose qui est fait sur mesure avec un message qui est pour l'entreprise dans un but précis, évidemment, c'est beaucoup plus fort que de prendre un diagramme en barre ou un camembert qu'on utilise à toutes les sauces et qu'on marque juste avec une petite légende. Donc nous, on s'intéresse à le bout du spectre, de dire comment on fait pour aller plus loin, pour les émotions, pour les expériences. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, on pourra en parler avec Kylan. Nous, notre vision du data, elle n'est pas que pour être sur un petit écran. Elle est dans des choses qui sont aussi beaucoup plus immersives, dans des expériences type muséales. Et c'est peut-être qu'on va peut-être en reparler.
Non, mais déjà, je voulais signaler que sur votre site internet, on peut voir plein d'exemples de data art et avec l'explication.
Le site, c'est
kirelbenzi.com. Alors, Kirel, c'est bizarre. KIRELLBENZI.com.
On mettra peut-être dans la description de l'émission les liens, mais voilà, moi j'ai pu voir plein d'exemples. On clique dessus, on voit les explications. Il y a parfois des vidéos YouTube aussi. On peut voir l'évolution parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez abstrait a priori dans notre esprit.
Mais voilà, mais alors, je voudrais savoir quelle est la part de vraiment née des data. Est-ce que c'est quelque chose qui est tout d'un coup qui est projeté devant vous et ensuite vous redonnez éventuellement une forme, mais au départ vous avez aussi une surprise totale, ou est-ce que c'est un contrôle du début à la fin de votre part sur les data?
Alors c'est en fait les deux, c'est-à-dire que les données en fait imposent une certaine forme. Par exemple, je prends un réseau de personnes qui sont connectées sur LinkedIn, par exemple. On est tous connectés, on est dessus. Le réseau, il va être entièrement connecté, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de trou avec une communauté. A priori, c'est rare qu'il y ait un groupe de gens qui n'ait aucun lien avec un autre. Par exemple, sur Facebook, il suffit de 4 degrés de séparation pour relier tous les gens de Facebook. C'est 3 milliards de personnes. Donc, le réseau, il est toujours connecté. Il ne va pas avoir un côté, un petit groupe qui n'est pas connecté à l'autre. Donc déjà, rien que ça impose une forme. Je ne pourrais pas avoir un truc tout à gauche séparé du truc à droite, puisque forcément, il y a des liens entre les deux.
Ça veut dire que vous, dans votre esprit, là, vous regardez cette donnée de très loin, vous vous dites déjà, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, il y a plutôt Exactement. Des choses vers lesquelles j'aurais
envie de faire. En gros, ça veut dire que ce sera une toile d'araignée. Enfin,
si voilà, par exemple, dans ce cas-là. Donc, après, on peut évidemment travailler la forme de la toile d'araignée pour que ça ressemble à une fleur ou ce qu'on veut. Mais par contre, il y a quand même, on est lié aux données. Ce qu'on ne peut pas ajouter ou ce qu'on ne peut pas enlever dans ces représentations, c'est le nombre de lignes, de points dans mon fichier Excel, si c'est plus simple, et le nombre de connexions ou le nombre de colonnes. Ça, on ne peut pas le faire.
Vous pouvez quand même sélectionner des filtres pour enlever certaines données, voilà, ou aller plus ou moins loin.
Voilà, mais par contre, il faut, évidemment, à partir du moment où on filtre, on a encore ce biais qu'on rajoute, donc tant qu'on le dit, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas...
Trop jouer avec ça ?
Bah, on peut, mais par contre, il faut le dire. Sinon, il ne faut pas dire « Ah, j'ai pris que les données qui m'arrangent et j'ai supprimé les mois qui pour mon entreprise. » Bon, c'était la crise, non, on les a filtrés, puis on dit que ça... Non, là, il y a un côté éthique de dire « Moi, je suis scientifique de métier. » Il y a quand même un truc à jouer dessus, de dire qu'est-ce qu'on fait.
Mais le choix de la façon dont ça va être représenté, ça peut être des choses qui viennent de la machine, ou c'est toujours une décision?
Alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'en fait, après, une fois qu'on a ces données, qu'on est content de notre jeu de données, on peut dire, ok, maintenant, est-ce que je peux avoir des visualisations standards type scientifique de mes données, et après commencer à travailler dessus. Donc là, il y a un côté, la plupart des visualisations, si on parle d'un réseau par exemple, c'est basé sur des modèles de physique qui existe dans la nature, d'attraction, de répulsion. Donc on va avoir plus ou moins les mêmes formes, et c'est là après que la partie artistique rentre en jeu, dire bon, ok, comment maintenant je vais transformer ça pour pas que ça ressemble à une toile d'araignée comme une autre toile d'araignée par exemple, et comment je le transforme pour que par exemple les couleurs, la palette de couleurs soit mappée sur des propriétés de mes données, comment je fais pour déplacer quelques points dans l'espace, et là j'écris mes algorithmes pour et qui on se rapproche dans ces cas-là du côté génératif qu'il y avait dans l'audio pour créer de l'émotion.
Là, vous avez un espace de créativité qui est large, ou est-ce que parfois vous êtes frustré parce que finalement les données comme elles s'affichent, vous pouvez pas trop y toucher, parce que comme vous dites, à un moment donné, il y a tant de données, elles se présentent comme ça. Moi, si je veux modifier un peu le dessin, c'est compliqué.
Alors voilà, c'est souvent ça en fait. C'est-à-dire que c'est toujours une ligne qui est assez fine entre je veux quand même être proche scientifiquement de la data vie, c'est-à-dire que je veux qu'on puisse quand même comprendre ce qu'il y a dedans. Mais d'un côté, j'aimerais bien être plus libre en tant qu'artiste de faire des choses. Et cette dualité, elle contraint le design, en fait. Et c'est ce qui est aussi intéressant.
Après, quelque chose que j'ai pu remarquer aussi en art, de la contrainte naît la créativité.
Oui, c'est la nature de l'art. Le marbre n'est pas mou, et etc.
Avant de continuer et de voir un peu la part du data art dans le monde, tout ça avec Kylan et Kirel, vous avez dit que 50% de notre cerveau était occupé au visuel, d'où la transformation aussi des données en visuel. Ça vous paraissait naturel. Mais alors, juste en parenthèse, et l'audio, alors combien de parties de notre cerveau est consacrée à l'audio, et pourquoi on ne transforme pas ces datas en son?
Alors ça existe, ça s'appelle la data sonification.
Ah mince
ça existe. Le problème, que pourquoi en fait, c'est dans un but artistique, c'est super. C'est moins efficace parce que la bande passante qu'on a du cerveau pour l'audio est, je crois, si je dis pas de bêtises, 100 fois plus faible ou 10 fois.
Oh là, Vincent, c'est vraiment un coup dur.
C'est pour ça que je suis 100 fois moins bien payé.
Oui, mais par contre, pour l'audio, il y a des propriétés qui sont assez intéressantes. Par exemple, c'est facile pour nous de détecter quand quelque chose est plus vraiment dans le rythme. Si je fais un rythme qui est toujours le même et qu'après ça change, bah tous les phénomènes qui se répètent dans le temps, on va pouvoir les détecter. Le problème, c'est que c'est un peu temps réel l'audio, c'est-à-dire que je suis obligé d'écouter une heure pour avoir une heure de données, alors que la vision, je peux arriver à tout mettre ensemble. C'est comme si je disais, bah, je vais prendre un morceau de Chopin et je vais jouer toutes les notes d'un coup. Parce que du coup, j'ai tout résumé. C'est ce qu'on a un peu dans la vision.
Je suis très bon pianiste, c'est ce que je fais.
Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a le côté temporel qui ne nous aide pas forcément dans ce cas-là.
Oui, je voulais simplement dire, bon, déjà, que le son, l'avantage, c'est que c'est le seul sens qui est à 360. Voilà. Petit avantage pour nous, les travailleurs du son. Et puis, il y a une artiste qui s'appelle Nathalie Mirbar, je sais pas, qui s'empare des données météorologiques et qui en fait et des objets visuels, donc des sculptures, et des partitions. Voilà, vous pouvez aller voir, elle a fait une conférence TED. C'est assez bizarre, ça laisse aussi perplexe parce que, mais ça on en reparlera, moi c'est la partie du data art où je me dis, est-ce que vraiment ça me permet de mieux comprendre la donnée ou est-ce que ça me plonge pas encore plus dans un truc super bizarre. Mais en tout cas oui, il y a des choses qui existent et on peut aller écouter, et c'est, en tout cas c'est intéressant et ça existe.
Et Kirel a beaucoup travaillé avec la musique aussi, avec le jazz, non, c'est ça?
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec le Montre Jazz Festival, donc là, mais plus dans un côté datavis, datard.
Oui, des connexions entre artistes.
De connexions entre artistes, de toutes les archives. Il y a 54 ans d'archives à mettre en scène. Et c'est quelque chose qu'on a fait à l'atelier avec Kylan. Justement, c'est une des expériences qu'on a proposées qui était de valoriser ces archives dans un dôme à 360 degrés. Donc un dôme comme un petit planétarium en fait. Et donc c'est là en plus la force du data art, c'est que on sort juste de l'écran classique des dashboards et là on est dans une expérience immersive où on rentre dedans, on est 10 personnes, on regarde au plafond, on a même créé, Kylan pourra en parler, un contrôleur, donc un objet, vraiment un objet physique qui nous permet de nous déplacer dans cet environnement à 360 degrés. Et c'est là en fait où on a vraiment l'expérience totale, j'allais dire, plus que de regarder un truc devant son écran.
Et pour les fans de jazz, vraiment on peut voir en fait comment les musiciens sont plus ou moins connectés à des groupes. Enfin c'est les rapports des musiciens entre eux, est-ce qu'ils appartiennent à plusieurs groupes ou pas. On voit ceux qui ont le plus de participation dans des groupements. C'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on a une masse de données. Enfin le jazz c'est Montre Jazz Festival.
C'est énorme, c'est 2,7 pétabytes, donc 2700 terabytes.
Bon, faut se calmer, les gars.
Et je voulais donner juste un autre exemple pour qu'on comprenne que la data art, c'est pas que des choses, on imagine forcément des choses sur écran, mais déjà tout ce qu'on peut voir de ce que fait Kirel ou ce que vous faites, on le voit sur ordinateur, mais souvent c'est des choses qui existent aussi sous forme plastique, imprimées
oui,
sur des supports.
Il fait même très attention à les imprimer de façon très correcte.
Ça reste de l'art qu'on voit dans des musées, dans des endroits. Hein. On parle pas que de choses d'ordinateur. Et par exemple, il y a aussi une artiste qui a fait à partir des données sur l'argent, je crois, dans un casino qu'elle a créé de toutes pièces, où on peut jouer avec notre argent, on peut jouer, en fait, on échange nos données personnelles contre de l'argent. Donc, on a aussi des performances artistiques qu'on retrouve vraiment dans tout l'autre univers de l'art en général. Il y a des gens qui font des pistolets connectés aux chiffres de l'armée américaine, et à chaque fois qu'il y a un drone qui tue quelqu'un, le pistolet tire sur un tableau blanc. Enfin, c'est pas du tout que de l'image ordinateur. Hein.
Il y avait aussi l'expérience où tu avais une puce dans le bras qui, à chaque fois qu'il y avait un mort, là.
Voilà, il y a un artiste qui a mis un bracelet connecté aussi à des relevés de données de l'armée en Afghanistan. Et en gros qu'il le mettait sur les spectateurs, et à chaque fois qu'il y avait un mort, le bracelet vibrait. Et là on se rend bien compte comment l'art permet de passer des informations de manière vachement forte, parce que entre lire il y a eu un mort et entre à chaque fois ressentir son bras qui bouge et se dire putain, à chaque fois que mon bras bouge il y a quelqu'un qui se fait tuer, ça n'a rien à voir.
Moi je suis assez persuadé que l'information par l'émotion, c'est quelque chose qui fonctionne, en fait qui a déjà fonctionné, hein. Oui. Tout ce qui est art religieux était fait pour ça, pour permettre à ceux qui n'avaient pas, qui ne pouvaient pas lire, qui étaient illettrés, de pouvoir accéder à cette connaissance.
Tout ce qui est symbole en général.
Exactement. Oui,
mais c'était pas des données, c'était on faisait passer des histoires, on faisait passer des récits.
C'est une cosmogonie immense.
C'est ça, un symbole peut, enfin rien que dans un vitrail, on peut avoir toute une histoire, une mythologie.
Mais est-ce qu'on peut aller sur des exemples de justement représentations qui sont faites pour aider à anticiper des décisions, qui sont faites pour prendre le pouls de l'état, du business, parce que que ça, c'est pour les gens qui nous écoutent aussi sur la partie vraiment entreprise, c'est intéressant.
Une fois qu'on a un corpus suffisamment riche et suffisamment historiquement riche, on peut faire des projections. Ça, c'est quelque chose qui se fait sans problème. Maintenant, on va se retrouver. Des projections, attention, ce n'est pas des prédictions. Donc, on prend ces projections et il faut aussi les utiliser avec parcimonie et venir les intégrer à notre stratégie.
Oui, non, mais bien sûr, mais est-ce qu'il y a des exemples parce qu'encore une fois, l'utilisation de la donnée, enfin, on en est tous là. On se dit qu'au maximum, on doit pouvoir en faire quelque chose sans se noyer dedans, certes. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on aborde des exemples de représentation artistique destinée vraiment au business.
Alors, on a un exemple qui peut-être va vous plaire, puisqu'il est sur le groupe Havas. En fait, c'est un projet qu'on a fait au début de l'atelier, en fait, qui était de regarder en fait toute le LinkedIn interne de Havas. Donc, en gros, toutes les connexions entre tous les niveaux hiérarchiques, en fait, du stagiaire jusqu'au grand chef, et de regarder en fait d'avoir une visualisation du réseau de la boîte. Et pourquoi on a fait ça au début, c'est parce qu'en fait c'était assez compliqué de comprendre dans un groupe qui fait partie d'un autre groupe qui est racheté, il y a 50 000 sous-branches, etc. Donc d'avoir une vision plutôt au niveau et stratégique de ça. Donc on est parti de ces données-là pour après avoir une visualisation. Et de ces données-là, on a appris plein de choses. Par exemple, qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Par exemple, à 56%, donc la parité est quasiment absolue dans le groupe. On a pu visualiser aussi à quel point en fait tout le monde était connecté et que rien qu'avec un niveau hiérarchique, on a une espèce de galaxie, ou même pas une galaxie, plutôt une espèce de plante, on va dire. C'est un peu compliqué parce que c'est abstrait à décrire, mais de voir en fait à quel point quand je suis patron d'une agence, donc qui fait partie du groupe, je suis à 3 niveaux hiérarchiques du grand chef, par exemple, où il y a 11 niveaux de profondeur. Toutes ces infos qui sont assez utiles, maintenant comment on les met en scène, comment on les projette pour que ça soit, on ait un message qui disent on fait partie d'un groupe, on fait grandir les gens, ils peuvent évoluer dans le niveau de la carrière, etc. Et nous, on l'a représenté de telle sorte à créer comme ça une émotion à partir de ces données qui sont très concrètes et qui servent vraiment à la décision du groupe. Et d'ailleurs, même ces données-là, on ne les avait pas avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'avais fait un tour un peu d'Internet pour savoir qui avait travaillé un peu sur des données comme ça. J'ai trouvé une seule entreprise qui avait fait ce genre d'informations, de comprendre comment le groupe marche, et après du coup ça peut aider pour les transferts entre entités, pour les salariés, pour que ça soit un peu équivalent à différents postes, par exemple dans le groupe, par pays, etc. etc.
Et les décideurs ou vos clients, ils ont été attentifs tout de suite au data art, ou est-ce que ça a pu les effrayer en mode c'est un peu obscur ou...
Alors justement, le data art a ce bel avantage de tout de suite capter l'attention. Donc déjà, la plupart du temps, c'est ils trouvent ça beau. Voilà, ils trouvent ça intéressant. Et en plus, ça a du sens, c'est eux, c'est vraiment fait pour eux à partir de leurs données. Donc, c'est finalement quelque chose qui leur plaît. Par exemple, ce qu'on a fait pour le PFL, donc à partir des données du Montre Jazz Festival, il y avait effectivement le côté faire un événement, créer comme ça une expérience, mais il y avait aussi ce message finalement un peu plus politique, qui est de montrer que le PFL est profondément ancrés dans une belle tradition et qui projettent vers le futur. Qu'ils sont archiveurs du Montre Jazz et que donc il y a vraiment une implantation dans le tissu de Lausanne. Et tout ça nous a permis de créer cette expérience et de pouvoir, pour le PFL, lancer un message fort pour leurs 50 ans.
Ce qui est intéressant juste sur le data art, pour communiquer pour les marques ou pour les entreprises, c'est que comme on prend des datas de la marque ou de l'entreprise, c'est une visualisation qui est très personnelle à la marque et qui est très propre à elle, qui n'existe nulle part ailleurs, qui va ne ressembler à rien d'autre. Donc c'est un moyen puissant de dire, regardez qui on est. C'est que nos datas, c'est que les datas de nos usagers, de votre relation à notre marque. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très identifiable. Je pense que c'est ça qui doit plaire énormément aussi aux clients.
J'ai l'impression que, en fait, on se dit que c'est un outil d'aide la décision, mais c'est avant tout un acte de communication. C'est-à-dire que, au fond, ce que j'entends, c'est que la manière de la mettre en scène avec cette couche artistique, c'est pour la projeter sur un public plus large et pour évidemment communiquer sur l'entreprise et sur l'état dans lequel elle se trouve.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, le public, de tout ça? Parce que le public, il ne sait pas du tout ce que c'est que le data art, ni rien du tout. Eh bien, en fait, il en pense pas grand-chose, ou alors ils deviennent complètement parano et moitié débiles.
Oui, bah, le data art, moi, je me demande si c'est vraiment de l'art ou du cochon, hein. Parce que bien sûr, bon, d'accord, on sert de modèle, mais surtout de cobaye. Parce que le data art, pour beaucoup, c'est aussi de data visualisation. Et ça sert ça pour du marketing, pour les entreprises, enfin, pour nous manipuler, quoi. Et en plus, je me pose la question de mes droits. Parce que vous voyez que je vais à la gare pour prendre le train à Lausanne et je me retrouve dans une œuvre sur les déplacements. Et on m'a pas demandé mon avis, hein, ça, non, pas du tout. Et en plus, pas de rémunération. Enfin, j'ai pas reçu de chèque, rien du tout, quoi. C'est pas normal. Et ça, c'est pas des trucs qui arrivaient avec un Michel-Ange, par exemple.
Alors manipuler, dans quel sens? On va utiliser des données. De toute façon, aujourd'hui, on est en Europe. On a RGPD qui est une loi qu'on prend en compte, en fait, qu'on applique strictement. Donc en fait, les corpus qu'on utilise, pour nous, ils sont complètement anonymes. On vérifie bien. Là, on travaille avec, par exemple, un grand nom. Hélas, on ne va pas pouvoir donner son nom, mais de la parfumerie. On demande strictement des données anonymisées et qui sont finalement respectueuses de chacun.
Néanmoins, Kirel, quand vous évoquez le travail sur Havas, de voir un peu les interconnexions de chacun, etc., est-ce que c'est pas privé, ça, par exemple, mes interconnexions avec les autres ?
C'est interne au groupe, puisque ça fait partie de la... C'est pas des... Attention, c'est pas les connexions de qui j'ai comme ami, ça n'a rien à voir. C'est juste les relations hiérarchiques, quelque chose qui est interne au groupe, qui ne sort pas du groupe, d'ailleurs, qui est vraiment...
Que on n'a pas les maîtresses ou les amants.
Non, bah, mais, non, mais ça aurait été intéressant, moi. Mais non. Y a pas...
Si je vous pose cette question, c'est parce que, évidemment, ce sont des questions qui peuvent se poser
mais
autour.
Mais c'est très légitime, en fait.
Et quand on y répond tout de suite, ben, on est plus tranquille et on sait à quoi on a affaire, c'est tout.
Mais dans l'art aussi, voilà, on a tout ce qui est, par exemple, l'avertissement avant un film ou une série, ces personnages sont inspirés de la réalité mais rendus anonymes. Dans les romans, il y a souvent des gens qui portent plainte, hein, contre un auteur parce qu'ils sont reconnus dans un personnage. Donc en fait, c'est effectivement quelque chose qui apparaît dans l'art en général, qui s'inspire des gens de toute façon.
Et avant d'aller vers un historique qui va parler justement de cet art en général, un petit point financier, aujourd'hui c'est quoi le poids du data art ?
Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Oui, puisque c'est un métier, puisqu'il y a quelques... Mais il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. Pour l'instant, moi, je pense que... Il y a quoi ? Allez, 25 personnes qui font ça, mais un professionnel.
Il y a des formations ?
Non. Alors, on travaille là-dessus, en fait, mais il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est vraiment... C'est tellement nouveau, c'est vraiment, j'allais dire, à la limite de ce qu'on connaît. C'est toujours... Il y a, comme vous l'avez évoqué, il y a plusieurs artistes qui ont des courants différents. Déjà, le domaine de la datavise s'est professionnalisé l'année dernière seulement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant enfin une communauté qui s'appelle Data Visualization Society, qui regroupe un petit peu des gens. Et,
il y a combien de gens dans cette...
Il y a 12 000 personnes dedans.
Il y a des diplômes ?
Alors, il y a pas mal de masters qui offrent des options datavise, mais il n'y a pas encore... Il y a surtout data journalisme. Ça, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas encore la même chose. Datavise se professionnalise déjà en tant que discipline. C'est enseigné dans des écoles, soit de design, soit de computer science, soit de technologie. Et le data, non, pour l'instant, c'est trop nouveau en termes artistiques. Par contre, il y a beaucoup d'expériences de data art qui font le tour du monde. On parlera peut-être dans l'historique après,
non.
Mais il y en a beaucoup de projections. Bah, on a vu, même à Paris, il y en a plein. Par exemple, à la Télé des Lumières, il y avait des choses qui sont liées aux données. Il y avait la fondation EDF qui avait fait une exposition 1, 2, 3 data.
Il y avait JC2Co qui avait affiché aussi sur les abribus des data art.
En fait, on l'a autour de nous. C'est juste que c'est pas forcément mis sous ce label-là et les gens n'ont pas tout regroupé ensemble, mais ça existe évidemment depuis
longtemps. Et d'un point de vue business, chez Equinos, c'est important, Equinos ?
Alors c'est quelque chose qu'on tâche de pousser. L'atelier à Equinos, nous on est chargé finalement de créer du new biz.
Donc c'est quand même plutôt une démarche de R&D à ce stade, avant tout. Hein, c'est lié au business, mais en tant que R&D.
Alors quand Olivier dit R&D, il faut comprendre que ça ne rapporte pas d'argent, c'est ça ?
Oui.
C'est de l'investissement.
Ça dépense de l'argent, c'est un investissement, ça nous a permis de
toucher... Pour développer le business.
Pour développer le business, exactement.
C'est une belle vitrine.
Et on mène nous-mêmes nos propres... C'est pour ça d'ailleurs que Kirel a ce statut de directeur de recherche, hein, au sein de l'atelier. On mène nos propres recherches en interne. La data visualisation et la transmission de l'information par l'émotion, on utilise un protocole strict de recherche pour travailler là-dessus, parce qu'on ne vend pas de bullshit à nos clients. Donc il faut qu'on puisse...
en parler.
Et Kirel, en termes d'art, les musées, ceux qui organisent des expositions, ils sont friands de ça, ça se développe?
Ah oui, alors vraiment en ce moment, il y a data art, et parce que là c'est, on parle beaucoup d'art fait avec du big data, et il y a aussi l'art fait avec l'intelligence artificielle qui est encore plus à la mode en ce moment. Enfin moi il y a plein d'expos, je fais des podcasts, des interviews, des machins, parce que c'est à la mode, on entend parler par rapport aux données personnelles aussi, comment on transforme ça, ça fait un peu peur aussi, donc c'est aussi un moyen pour moi, peut-être je vais pas expliquer pourquoi en fait je fais du data, mais comme je disais, moi je suis scientifique de métier, et du coup pour moi c'est un moyen de vulgariser la science, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche, comme on disait, pédagogique, de pouvoir expliquer, faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, ça va changer tous les métiers de tout le monde. Vraiment, ça c'est une certitude. Mais par contre, c'est un outil. C'est-à-dire que ça va changer le métier. Ou c'est comme si maintenant on disait, j'ai des nouveaux outils pour. Mais par contre, il faut le voir comme ça, pas comme ça va me remplacer. Ah là là, c'est fini.
Bah, le problème, c'est qu'il y a eu Terminator, quoi.
Voilà. Et c'est un gros problème, parce que du coup, maintenant, on projette. Puis il y a aussi tous les Black Mirror, toutes les séries où on dystopique, où on projette quelque chose. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'en le projetant, on y va. On va vers ce futur
c'est
bizarre. Auto-réalisateur. C'est ça. Au lieu de finalement se dire, c'est qu'un outil.
Alors, c'est quoi cette création par intelligence artificielle, puisqu'on parle, nous, d'intelligence artificielle d'habitude?
C'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est plutôt génératif dans le sens où on va entraîner un modèle sur plein de données, des images par exemple, et la machine après va pouvoir créer des nouvelles images, donc on appelle synthétiser ou halluciner, c'est les mots dans le jargon, des nouvelles images à partir de données qu'on a en entrée qui sont, par exemple, on parlait du cochon d'Inde, si j'ai entraîné ce que j'ai fait, il y avait un peu de cochon d'Inde.
Oui, vous avez fait
du cochon d'Inde. Okay, voilà. Bon. Et en fait, c'est de dire, j'ai entraîné un réseau de neurones à décoder ou à reproduire 1000 objets différents. Donc ça va du cochon d'Inde, objets animaux, cochon d'Inde, plantes, etc.
Feu rouge.
Maintenant, on peut redemander à la machine de me recréer une image qui me donne 30% de cochon d'Inde, 20% de feu rouge, 30% de...
Vous êtes un peu taré quand même.
Oui.
Et en plus, c'est une application business.
Par contre, le résultat est assez intéressant parce que là, dans ce cas-là précisément, ça ressemblait à des fleurs. Je trouve ça assez rigolo de dire, on voit des fleurs, mais en fait, il n'y a aucun des ingrédients qui ont servi à créer cette image qui sont des fleurs. Donc, pour moi, en tout cas, ça m'interroge sur la vision, comment nous, le cerveau, perçoit des choses, puisque finalement, on combine des formes élémentaires, des textures, des couleurs, et on arrive à se leurrer nous-mêmes à partir d'algorithmes en fait, qu'on a entraînés. Donc c'est assez intéressant d'explorer ça artistiquement, et du coup, c'est vachement à la mode.
Oui, j'imagine bien qu'il y a plein d'applications business, tout ce qui est recherche sur le cerveau, les neurosciences.
On peut en parler des heures. Ça, c'est
voilà, et dans l'armée aussi, d'ailleurs.
Très rapidement, pour l'industrie du parfum, comment faire pour visualiser l'effet que le parfum a sur les gens, toutes ces fragrances, toutes ces notes de tête, etc. Et finalement, on peut pouvoir composer un parfum à partir de ce genre de visualisation et de voir son ambiance, quelle installation il met en place au niveau olfactif, plutôt que...
Oui, c'est fascinant. On voit bien l'idée d'être devant un parfum et d'avoir une image, de se dire, votre parfum, il ressemble à ça.
Eh bien, j'aimerais qu'on enchaîne tout de suite avec l'historique de Monsieur Félix.
L'histoire passionnante et édifiante de la comédie humaine.
Et oui, j'ai retrouvé le premier data artiste de l'histoire, à mon avis. Donc, il est français, il a vécu pendant la première moitié du 19e siècle et il s'appelle Honoré de Balzac. En tant qu'écrivain, Balzac y commence plutôt mal sa carrière, il voit ses romans finir presque tous sous le pilon des éditeurs. Puis il a une illumination, sortir l'art littéraire des récits chimériques pour en faire un véritable outil de savoir et de connaissance. Il s'inspire des naturalistes comme Buffon ou Saint-Hilaire qui classent méthodiquement les données du monde animal pour en former une image claire et précise. Mais ses datas à lui seront pas zoologiques mais humaines. Balzac possède une faculté d'observation qui tient du génie et grâce à ce don, il puise dans la société de son époque une masse de données pour ensuite les compiler dans une gigantesque cathédrale littéraire, 91 romans écrits en moins de 20 ans, réunis sous un seul titre, La comédie humaine. Alors Honoré est aussi ambitieux que bosseur, il étudie tous les caractères, tous les types sociaux, les manières de vivre, de penser, d'agir, d'interagir, il se documente, il voyage, il interroge pour devenir un colosse d'érudition, un monsieur Big Data à lui tout seul. Son objectif, je le cite, tout représenter sans que ni une situation de la vie, ni une physionomie, ni un caractère d'homme ou de femme, ni une manière de vivre, ni une profession, ni une zone sociale, ni un pays, ni quoi que ce soit de l'enfance, de la vieillesse, de l'âge mûr, de la politique, de la justice, de la guerre, ne soit oublié. Une sorte de data global et exhaustif de la société française. Alors ces données, il faut les compiler, et en guise d'intelligence artificielle, Balzac utilise son cerveau. Comme tous les génies, il se dit doté d'un don de seconde vue qui lui permet de deviner la vérité dans toutes les situations possibles. Autrement dit, à partir de ses observations, il est capable de calculer un récit équivalent à la réalité. Ces personnages ne sont donc pas des inventions, ils sont des images fidèles de ce que sont réellement ses contemporains. Et pour que cette image soit parlante, Balzac estime qu'il lui faut créer au moins 4000 personnages différents et montrer à chaque fois leur relation avec le milieu dans lequel ils évoluent. Un travail titanesque, mélange de points, de trajectoires, d'interactions, d'aplats, de zones d'événements, de vecteurs et de forces. Un graphique jamais vu ni avant ni après que Balzac rédigeait entre minuit et l'aube jusqu'à sa mort à l'âge de 51 ans. Et comme le data art aujourd'hui, son œuvre évoluait en temps réel puisqu'à chaque nouvelle édition, il réécrivait ses romans, il corrigeait ses descriptions, il rajoutait des personnages pour livrer finalement à son époque le plus grand magasin de documents sur la nature humaine. La comédie humaine. Alors pourquoi comédie ? Peut-être parce que lorsqu'on observe l'homme et qu'on récolte autant de data sur lui et sur ses actes, on finit par s'apercevoir de la vanité, du ridicule de son existence réductible à quelques pages de romans ou à quelques données figées sur un graphique.
Le data, le but, c'est de créer de l'émotion pour se reconnecter à ce qui fait de nous des êtres humains, en fait. C'est par rapport à, je veux remettre de l'émotion dans des données qui sont froides, qui peuvent paraître froides, si on n'a pas ce mindset de dire j'aime bien analyser des données, c'est une très petite partie de la population. Le data, justement, il sert à communiquer et à finalement inclure tout le monde. De dire, ben, moi aussi, je peux prendre mes données Facebook, qu'on peut au passage tous télécharger légalement, hein, depuis la loi, et les transformer en quelque chose qui va me toucher, et c'est avec mes propres. Donc, et je les possède, je me réapproprie mes données. C'est quelque chose qui est, je pense, une vision un petit peu plus positive que. Mais par contre, si le but c'est de dire que oui, si on fait que analyser des données toute la journée, après on a une vue un peu cynique parce qu'on est tous réduits à des données. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas vraiment tous réduits à des données finalement ? Après, il y a une question un peu plus peut-être métaphysique de dire, bah, qu'est-ce que je fais ? Finalement, je peux toujours tout découper, le fait qu'on parle, on peut tout analyser. C'est juste que notre cerveau, il n'est pas vraiment calibré pour faire ça, mais ce n'est pas faux non plus, le fait de prendre toutes ces données et de les consigner en fait.
Et puis, pour faire un petit parallèle avec le son, on dit la musique est l'un des seuls arts qui passe de l'oreille au cœur sans passer par le cerveau. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le data art, de l'œil au cœur, sans passer par le cerveau et en utilisant des mathématiques. Je vois mal ce qui pourrait être plus humain.
Quand on lit des descriptions de romanciers comme Balzac, on a une vision de l'humanité qui est un peu froide parce qu'on décrit le moindre caractère, le moindre bout de peau, et c'est une vision de naturaliste en fait, hein, de la vie.
Les données, nous, on les récolte pas. C'est un autre métier, c'est
déjà,
autre chose.
Voilà. Déjà, c'est bon.
On les expose pour qu'il y ait en plus de transparence. Mmh. Ces données, elles sont déjà récupérées. Les exposer pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui est en train de se passer, c'est justement donner plus de transparence et donner ça accessible et intelligible à un humain.
En tout cas, c'est beau. Kirel, vous voyez ça comment ? Dans quelques années, quelques mois ?
Alors, j'espère que tout le monde aura 5 tableaux chez soi, du coup, faits par...
Oui, d'ailleurs, vous proposez ça, de travailler pour des particuliers ou des choses comme ça ?
Oui, en fait, on travaille pour Equino, on travaille pour des entreprises, oui. Mais il y a aussi un côté particulier. Ce que j'ai, par exemple, tout à l'heure, de prendre ces données Facebook, etc., de les télécharger, de prendre... on peut faire un peu, tant qu'on a l'autorisation, donc tant qu'en gros, je donne l'autorisation en tant que particulier pour le faire, on peut transformer tout en n'importe quoi, c'est assez intéressant.
Vous pouvez faire un tableau à partir de mes données médicales, par exemple ?
Oui, mais par contre, oui, tout à fait. En fait, on pourrait faire avec même les messages. Moi, j'avais fait un truc personnel avec les messages échangés sur WhatsApp.
Et vous en aviez fait quoi, du coup ? Un livre ?
Non, c'était une œuvre graphique, en fait.
Mais on vous a demandé un truc un peu qui vous a semblé chelou, enfin bizarre.
J'ai rencontré des gens bizarres, surtout dans des conférences où ils sont un peu trop justement philosophiques, machin. Puis il n'y avait pas de données derrière, c'était un peu bizarroïde. Mais pour l'instant, ça va. Les gens, ils sont. Je pense qu'ils aiment bien le concept parce qu'ils ont ce côté aussi art et science. Donc du coup, j'ai pas eu trop bizarre pour l'instant.
Donc l'avenir.
Donc dans l'avenir, j'espère que ça va se démocratiser encore plus. Mais je pense que c'est déjà le cas. On voit ça dans les séries. En fait, on le voit un peu partout sans forcément mettre ce label data art. Et du coup, que les gens, ça reconnecte les gens aux données. Et que ça leur donne envie en fait de s'intéresser à ça, ce qui est important puisque c'est tout le monde va vraiment évoluer à cause de ça. Donc c'est dommage de se couper en fait. Et du coup, le data art, c'est un moyen accessible aux gens de pouvoir reprendre en main leurs données.
Kylan, est-ce que le data art est déjà un moyen stratégique pour les armées de voir les mouvements de troupes, les machins, les choses comme ça, non ?
Eh bien oui, la data visualisation et notamment tout ce qui est, ça peut aller de l'affichage tête haute simplement dans un avion de combat où en fait on va avoir les alarmes qui vont tâcher de taper directement à l'émotion, à l'instinct du pilote. Quand un avion est sur le point de se faire abattre, évidemment il faut avoir des réflexes d'escrimeur. Donc, il faut absolument que ça tape directement à l'instinct du pilote
pour éviter qu'il se fasse abattre, parce que la moindre demi-seconde, et c'est un espace immense.
Et hors avion qui se fait abattre, dans la relation aux entreprises, l'avenir du data art?
L'avenir du data art, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez évident. On a de plus en plus de données et on veut en tirer le maximum de ces données. Et pour en tirer le maximum, il faut qu'on puisse les rendre intelligibles. Si je vous envoie un Excel avec 1 milliard de lignes de données...
C'est pas la peine.
Voilà. On en a, hein?
Non, je ne le veux pas. Non. Olivier?
Oui, moi je crois qu'on a... On a un rôle de pédagogie très important vis-à-vis des gens, parce que la donnée fait maintenant partie intégrante de nos vies, et en plus avec l'intelligence artificielle dont on attend beaucoup certes, mais ça devient finalement très prégnant, mais pour le citoyen lambda, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment de choses dont on sait qu'elles sont enregistrées mais qui restent souvent très abstraites. Et pour moi, la pédagogie qu'on doit pouvoir faire à travers ces disciplines, c'est de tout simplement rendre intelligible ce qui est difficile à expliquer avec des lignes de chiffres ou avec avec des longues phrases. Donc je crois que c'est un chemin vraiment intéressant pour cette raison principalement.
On peut surtout rendre simple le multiple pour moi. Des chiffres avec des tas de zéros derrière se transforment en quelque chose que je regarde et je comprends ce qui se passe. Félix, pour conclure.
Oui, moi ce qui m'a beaucoup intéressé aussi en tant que personne qui ne suis pas scientifique dans votre travail, c'est ce que vous avez fait par exemple sur Star Wars, et ça m'intéresse dans l'idée que toutes ces données, on peut aussi les récupérer d'œuvres d'art, d'œuvres littéraires, de films, de cinéma, il y a plein de données dans les personnages, les interactions, et en faire des choses. Par exemple, on peut imaginer une étude de roman ou faire comprendre à des élèves ce qui se passe dans une trilogie ou dans un mythe avec des data art. Ça, je trouverais ça super intéressant de creuser ces trucs-là pour l'éducation nationale par exemple.
Merci à tous, bonne fin de journée, bonne fin de COVID également, et à très bientôt.
Voulez-vous en savoir plus?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.